20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 25 janvier 2017. Le Canard Enchaîné révèle que Pénélope Fillon, l'épouse de François Fillon, a occupé un emploi fictif d'assistante parlementaire. Le début de la fin pour le candidat au top des sondages dans la course à l'Élysée. Nous sommes le 25 janvier 2017. Dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL, Jérôme Chapuis ouvre son journal de 8 heures sur la grippe. Mais une autre actualité va bientôt écraser toutes les autres et tenir en haleine les Français pendant plusieurs mois. C'est le Canard Enchaîné qui le révèle.
L'hebdomadaire en kiosque ce matin nous apprend que l'épouse du candidat a perçu 500 000 euros bruts en 14 ans comme collaboratrice parlementaire de son mari.
Jusqu'ici, rien de choquant, me direz-vous. François Fillon n'est pas le premier député à avoir fait travailler un membre de sa famille en tant qu'assistant parlementaire. Dans l'hémicycle, rien de plus banal. Mais le souci, c'est que pendant 8 ans, il semblerait que personne n'ait vu Pénélope Fillon effectuer ce travail d'assistante.
Le problème, c'est que personne n'a souvenir d'avoir croisé Pénélope Fillon dans les couloirs de l'Assemblée. Ni les témoins interrogés par le Canard Enchaîné, ni les hommes politiques que nous avons nous-mêmes appelés. Un ancien député UMP de la Sarthe que j'ai eu hier soir au téléphone était formel. Jamais il ne l'a vu travailler pour son mari.
Nous sommes donc le 25 janvier 2017. D'après les sondages, la fusée Fillon est lancée et rien ne semble l'arrêter. Dans un éventuel duel au second tour face à Marine Le Pen, il serait le mieux placé des candidats pour l'emporter devant un certain Emmanuel Macron. Et pourtant ce jour-là, le Canard Enchaîné sonne la fin de la récréation. Car de révélation en révélation, le candidat Fillon ne parviendra pas à faire face aux nombreuses affaires qui entacheront son image et pollueront sa campagne, voyant même, semaine après semaine, de nombreux soutiens le lâcher. Pire encore, François Fillon ne se qualifiera pas au second tour de l'élection présidentielle, une première pour la droite dans l'histoire de la Ve République. Et pourtant, plusieurs mois auparavant, personne n'imaginait un seul instant que François Fillon puisse devenir le candidat de la droite à l'élection présidentielle. En 2016, et pour la première fois de son histoire, la droite, qui a pourtant longtemps eu le culte du chef, a décidé de passer par la case primaire pour décider de choisir son candidat. Ils étaient nombreux sur la ligne de départ et parmi eux, trois poids lourds. Un ancien président, Nicolas Sarkozy, et deux anciens premiers ministres, François Fillon donc et Alain Juppé. Pour les commentateurs de la vie politique française, tout était joué d'avance. Le second tour de la primaire de droite se jouerait entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé et personne d'autre ne pouvait rivaliser. La tendance était même confirmée par les sondages. Mais pourtant, rien ne décourage François Fillon qui croit en sa chance. Dès le départ, et alors qu'il est encore loin dans les sondages, Fillon lance les hostilités et attaque Nicolas Sarkozy lors d'un meeting avec une phrase qui fera mouche sur l'instant, mais qui plus tard lui collera à la peau.
Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Pour se démarquer de ses adversaires et notamment de Nicolas Sarkozy, François Fillon a décidé de se draper en homme de vertu. Celui d'un citoyen irréprochable, à l'opposé donc de l'ancien président déjà empêtré dans les affaires. François Fillon doit faire oublier qu'il a été le Premier ministre quand celui-ci était président et qu'il le qualifiait de simple collaborateur. Plus encore, il doit se donner la stature d'un président. Sans rien renier de ses convictions politiques, François Fillon fait campagne et enchaîne les réunions publiques à travers toute la France. À défaut de grands meetings comme ses concurrents, eh bien il multiplie les petites salles. Il a une vision pour le pays. Celui-ci vit au-dessus de ses moyens. Il faut se serrer la ceinture. Une seule solution, l'austérité. Et son discours plaît. Une partie de la droite conservatrice et libérale trouve en lui son nouvel héros. Alors quand arrive le premier tour de la primaire de droite, François Fillon est prêt à faire mentir les sondages. Ce 20 novembre 2016, peu avant 21h, Thierry Solaire, président de la commission d'organisation de la primaire, prend la parole pour annoncer les résultats partiels.
François Fillon, 42,8%. Alain Juppé, 26%. Nicolas Sarkozy, 24,4%.
Le raz-de-marée est bien réel, il est immense même. François Fillon est en tête, si largement qu'on se demande si Alain Juppé ne va pas renoncer à aller Roduel dans un second tour. François Fillon a réussi son pari. Mieux encore, après le premier tour, Nicolas Sarkozy a annoncé lors d'une conférence de presse la fin de sa vie politique. Retour ce soir sur un homme politique qui a fait une sortie de route fatale après un départ tonitruant en pole position. Dans un instant, notre invitée sera la journaliste Véronique Jacquier, auteure du livre François Fillon, l'homme qui ne voulait pas être président. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J en direct et en podcast, podcast que vous êtes d'ailleurs très nombreux à suivre. Merci pour votre fidélité. Ensemble, chaque soir, vous le savez, entre 20h et 21h, nous revisitons de grands moments de l'actualité, ceux qui ont marqué un avant et un après. Notre Jour J donc de ce soir est le 25 janvier 2017, à quelques semaines des élections présidentielles. Le candidat François Fillon est stoppé dans son irrésistible ascension par des révélations parues dans le Canard enchaîné. Son épouse, Pénélope Fillon, aurait occupé donc un emploi fictif d'assistante parlementaire auprès de son mari et perçu à ce titre 500 000 euros bruts en 14 ans. C'est donc le début de ce que l'on appellera plus tard le Pénélope Gate. Véronique Jacquier, bonsoir.
Bonsoir Flavie, bonsoir à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste politique, vous êtes auteur du livre François Fillon, l'homme qui ne voulait pas être président. Ben, en réalité, son vœu a été exaucé ce jour-là.
Oui, mais enfin, il n'a pas fait exprès. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cru quand même. Mais quand ça devient difficile, quand les épreuves surviennent, eh bien, il n'y a plus de François Fillon, en fait.
Mais pourquoi il ne voulait pas être président, en fait? Il y a pensé quand même à un moment donné, Véronique.
Mais c'est un orgueilleux. Donc, quand il a vu, en tant que Premier ministre, puisqu'il était bien placé pour voir ce que c'était qu'être au sein de l'appareil de l'État, et puis diriger quand même l'État, enfin au moins un gouvernement pendant 5 ans, il s'est dit, si Nicolas Sarkozy y arrive, pourquoi pas moi ? Et c'est un orgueilleux. Mais il ne s'était pas forcément programmé pour la fonction suprême. Il n'y pensait pas en se rasant tous les matins. En revanche, il s'est dit... J'ai peut-être un coup à jouer parce que il a du flair. C'est quand même un homme de conviction. Il avait effectivement des valeurs conservatrices. Sur le plan de l'économie, il assumait un positionnement libéral. Donc il s'est dit, pourquoi pas moi, puisqu'il a bien vu que Nicolas Sarkozy passait son tour et que de toute façon, il avait déjà anticipé, puisque quand j'avais déjeuné avec lui le 30 septembre 2013, il l'avait évoqué lors du déjeuner. Il avait évoqué les affaires qui collaient déjà éventuellement aux fesses de Nicolas Sarkozy et qui pourrait donc l'empêcher potentiellement de se représenter, en tout cas de jouer un rôle dans la grande famille de la droite.
Donc il a eu le sentiment qu'il avait un boulevard quand même qui allait s'ouvrir à lui, mais néanmoins il avait carrément oublié ses propres affaires.
Il avait oublié ses propres affaires parce que c'est un orgueilleux et puis surtout 30 ans de vie politique, c'est quelqu'un qui n'a connu que la vie politique à l'ancienne, si j'ose dire, c'est-à-dire à une époque où on ne venait pas demander des comptes aux élus. Et il s'est dit, mais finalement, moi, ce que je fais, après tout le monde le fait. Sauf que ce qu'il avait oublié, c'est que les autres le faisaient peut-être pendant 6 mois ou 1 an, parce qu'effectivement, il y avait d'autres parlementaires qui employaient leurs épouses ou leurs filles ou leurs cousines. À l'époque, rappelons-le, ce n'était pas illégal.
C'est vrai.
Lui, le problème, c'est qu'il a un petit peu institutionnalisé la chose en faisant courir les choses sur 30 ans.
Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est accroché justement à cette campagne présidentielle? Est-ce que c'est une opération politique suicidaire, selon vous? Parce qu'on va le voir, il n'a jamais lâché l'affaire.
Il n'a jamais lâché l'affaire parce que c'est un orgueilleux. Il s'est dit, contre vents et marées, je resterai. Alors... Pour deux raisons. Un, c'était mon heure et j'ai été brillamment élue à la primaire de la droite.
Ce qui est vrai.
Donc je ne veux pas décevoir. Je ne veux pas décevoir ceux qui ont voté pour moi, puisqu'il faut quand même se souvenir que la primaire de la droite, c'était plus de 4 300 000 votants en novembre 2016. Donc c'est énorme. Voilà. Ensuite, c'est aussi l'histoire d'une victoire face à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'est-à-dire qu'il s'est dit, c'est moi qui ai gagné. Je ne suis plus l'homme que ces deux-là méprisaient, puisqu'il faut savoir que Nicolas Sarkozy appelait, comme on l'a rappelé,
le collaborateur.
François Fillon son collaborateur, et qu'Alain Juppé avait beaucoup de mépris pour François Fillon. Donc il s'est dit, ces deux-là, je les ai écrasés, il n'est pas question que je lâche. Donc c'est vraiment une histoire d'orgueil.
Alors, une histoire d'orgueil qui l'aura mené à un échec cuisant, hein, on va y revenir ensemble, on va se retrouver parce que on s'interroge quand même à un moment donné, comment réagit le clan Fillon à ces fameuses révélations. On parle d'un complot 3 mois avant l'élection présidentielle.
Oui, attention quand vous dites échec cuisant, il faut quand même se rappeler que même s'il est éliminé au premier tour, il fait 20% des voix, c'est plus que Jacques Chirac lors de ces deux élections.
J'entends, vous avez raison, mais un échec d'image, on va dire. Hein, et on prendra de ses nouvelles parce qu'effectivement de ça il ne s'est jamais relevé.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci à vous de suivre Jour J. Nous sommes en direct sur RTL jusqu'à 21h. Nous sommes donc le 25 janvier 2007 quand le Canard Enchaîné révèle l'emploi fictif de Pénélope Fillon, donc l'épouse de François Fillon. On est en plein cœur de la course à la présidentielle, une affaire qui mettra à terre le candidat François Fillon. Quelques jours après justement ces révélations, François Fillon revient sur cette affaire lors du grand meeting de la Villette. Écoutez.
Je viens de loin. Et on ne m'intimidera pas. Dès le début, Pénélope est à mes côtés. Elle est... Elle est à mes côtés avec discrétion, avec dévouement. J'ai construit mon parcours avec elle. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe.
Alors, Véronique Jacquier, vous êtes notre invitée jusqu'à 21h, vous êtes journaliste politique. Merci pour votre présence dans cette émission. Pénélope Fillon, là, lors de ce grand meeting à la Villette, elle est au premier rang, entourée ce jour-là des cadors, je dirais, du fillonisme, Gérard Larcher en tête. Le couple Fillon, c'était un couple qui était quand même, pardon, mais vachement discret. On ne connaissait pas Pénélope.
Non, on ne connaissait pas Pénélope, elle n'aime pas la politique, elle n'était pas spécialement intéressée par ce que faisait son mari, elle l'accompagnait comme une mère de famille qui gère, c'est quand même une maman de 5 enfants. Hein.
Oui, c'est ça,
donc,
elle avait déjà
voilà,
du boulot,
elle
qui n'était pas fictif celui-ci.
À sa place, elle a quand même été élue, hein, notamment comme conseillère municipale à Solesmes, elle a été même réélue
dans
en 2020, voilà, juste après le procès. Elle regarde tout cela de loin et on peut la comprendre parce qu'elle fait aussi partie de ces femmes qui correspondent aussi à une certaine génération.
Oui, puis elle a une autre vie,
place,
quoi.
Voilà.
Elle a une autre vie, voilà.
Tout à fait, tout
à fait. Il en arrive quand même à nous raconter son conjoint, quoi.
Oui.
Enfin, est-ce que ça n'est pas le comportement de quelqu'un qui veut déjà tout dévoiler pour mieux masquer le reste? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi cette stratégie? Pourquoi à un moment donné il nous raconte qu'il a un conjoint avec sa femme?
Non, alors ça, c'est vrai que son positionnement est très étrange, mais c'est parce que je pense qu'il s'est trompé d'époque, François Fillon. C'est-à-dire qu'il réagit comme celui qui a fait de la politique avec une cuillère d'argent dans la bouche, comme l'homme qui est finalement le châtelain de la Sarthe, un peu le patron de la Sarthe.
Il a un manoir.
Voilà. À qui on ne demande jamais de compte. Et il ne comprend pas qu'en fait, ce qui lui arrive dans la figure, c'est très grave. Il pense qu'il va s'en sortir facilement.
Alors, je voudrais qu'on l'écoute parce que l'émotion, quelques instants après, va l'étreindre. On est ce même jour au grand meeting de la Villette. Écoutez.
À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup.
On a l'impression qu'il va éclater en sanglots à un moment donné.
Oui, mais il est
profondément
normal.
Atteint.
Ce qui lui arrive est d'une violence inouïe. Parce que ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'à partir du moment où il gagne la primaire, c'est
parce qu'il pouvait prier,
prière,
hein, pour le coup.
Il,
oui.
Il se voit à l'Élysée. Il pense que le boulot est fait. Et c'est ça le drame de François Fillon. Vous vous souvenez, après la primaire, il part au ski, il ne fait pas ce qu'il faut pour réunir la famille politique, il ne tend pas la main à Alain Juppé, il ne tend pas la main à Nicolas Sarkozy. Non, il part au ski, il laisse les autres bosser. Et donc, il ne comprend pas ce qui se prend dans la figure et il pense qu'il va facilement s'en sortir. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on a changé d'époque. Et qu'à partir du moment où on commence à le chercher, surtout que c'est un potentiable président, puisque c'est quand même le champion de la droite, eh bien, évidemment, on ne va pas le lâcher. Une certaine presse ne va pas le lâcher et certains juges vont entrer en scène et ne vont pas le lâcher.
Voilà, effectivement, et là, pour le coup, ce sera beaucoup plus compliqué. S'ensuit une série de révélations en cascade, des rétrocommissions, des sommes revues à la hausse. On est passé de 500 000 euros, on est passé à 1 million d'euros pour Pénélope. Puis ce seraient les enfants du couple qui auraient perçu pour leur part 84 000 euros en 2 ans. En parallèle, François Fillon, il est auditionné au parquet financier qui se rend, donc il y a des perquisitions qui sont faites à l'Assemblée nationale. Et là, à l'Assemblée nationale, lors de l'enquête, on ne trouve ni badge de Pénélope, ni adresse mail de Pénélope Fillon. Ça chauffe quand même pour son matricule, là, à un moment donné.
Oui, mais quand je vous dis qu'il réagit à l'ancienne, parce que finalement, c'est l'homme d'un autre temps, puisque maintenant, ce ne serait plus possible, mais on va me répondre, heureusement encore, c'est que lui, il croit à l'indépendance. Il croit à l'indépendance du Parlement. Il pense que, de toute façon, il ne risque rien parce qu'on ne peut pas enquêter au Parlement. Ce qui était vrai à l'époque, souvenez-vous, c'est Claude Bartolone, quand même, qui a permis que les enquêteurs puissent se rendre dans les bureaux et chercher dans les cartons des traces du travail de Pénélope. François Fillon, il a pensé que c'était un intouchable.
Voilà, qu'il était protégé, sans compter la campagne qui va virer au cauchemar et à l'humiliation, parce qu'on se souvient, dans ses déplacements, il était toujours escorté, accueilli par un cortège de gens qui tapaient sur des casseroles. Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement violent. Dans son entourage, est-ce qu'il en reste qui croit encore dans la probité du candidat ?
À l'époque ?
À ce moment-là, après toutes les révélations.
Alors, à l'époque, dans son entourage, ils sont tous abasourdis parce qu'ils découvrent un homme qu'ils ne connaissent pas, finalement, parce que François Fillon est un grand solitaire. Et donc,
il est secret,
évidemment, ils se sont tous rangés derrière le champion de la droite, avec sa victoire éclatante à la primaire, mais il n'y a pas beaucoup de fillonistes, et il n'y a pas d'héritier du fillonisme. C'est un homme très seul qui ne partage rien. Donc, franchement, ils sont abasourdis parce qu'ils se disent « Mais à quel homme nous avons affaire ?» Après, ce sont des professionnels de la politique, donc ils se disent « Ouh là là, il faut qu'on gagne la présidence. » Donc, on serre les rangs derrière le patron. Seulement, ils se rendent compte que le patron, que ce soit au QG de campagne, que ce soit en meeting, alors en meeting, il est toujours très bon parce que la meilleure défense est encore l'attaque, on vient de l'entendre.
Oui.
Donc, il s'en sort très bien. Mais quand il s'agit de se rendre au QG de campagne, soit François Fillon n'est pas là, soit de toute façon, il ne partage pas les dernières infos, il se retranche dans un bunker, le QG devient un bunker, il se confie à peine à sa conseillère en communication Anne Méo, et donc c'est que ça devient très difficile de défendre un homme dont on apprend chaque jour qu'il a d'énormes casseroles aux fesses. Alors... Et lui-même n'est même pas capable finalement de bien se défendre.
D'autant que le 2 février 2017, coup de grâce, le magazine Envoyé spécial sur France 2 exhume une archive de la télé britannique qui faisait un reportage, un portrait de l'épouse de François Fillon, elle-même d'origine galloise, et là, c'est le drame. Écoutez Pénélope Fillon.
J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Mais rien de plus. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication.
Voilà, alors là, ça explique tout. On va revenir dans un instant, nous sommes en direct sur RTL, sur finalement le coup de grâce porté par la principale accusée, Pénélope Fillon, coup de grâce sur son mari, le candidat François Fillon. Ce sera dans un instant en direct sur RTL. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, jour J en direct sur RTL qui revient ce soir sur la chute aussi rapide que vertigineuse du candidat à la présidentielle de 2017, François Fillon. Le Pénélope Gate est en marche, les révélations ne cessent de venir entacher son image d'homme de vertu sur laquelle d'ailleurs il avait basé tout le début de sa campagne et il semble désormais ne faire aucun doute sur les agissements illicites de ce dernier. Véronique Jacquier, vous êtes notre invitée jusqu'à 21h. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette archive que l'on a entendue, une archive donc que l'on a retrouvée dans le magazine Envoyé spécial, c'était le 2 février 2017, c'était le coup de grâce en fait. C'est-à-dire que Pénélope Fillon elle-même contredit, alors les archives datent de bien avant, mais contredit d'avoir approché son mari d'une façon ou d'une autre, d'une façon professionnelle quoi.
Oui, alors effectivement, c'est inimaginable.
Enfin, ça lui revient
part.
Comme un boomerang.
Alors, voilà, ça lui revient dans un boomerang et même Pénélope Fillon, je pense que quand son mari gagne la primaire, elle ne comprend pas qu'elle change de dimension. Finalement, on voit bien qu'elle a toujours eu une vie en retrait.
On a l'impression qu'il y a une grande naïveté derrière tout ça, de leur part.
Il n'y a pas de la naïveté. volonté, il y a un incroyable détachement. C'est-à-dire que ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est à quel point ils se sont construits en dehors de la politique. C'est-à-dire 93, il devient ministre, la première chose qu'il fait, il s'achète un château. On n'a rien contre ça, hein. c'est pas Versailles, mais dans son fief de la Sarthe, à Sablé. Et voilà, elle se construit une vie, elle aime les chevaux, donc il ne faut pas oublier quand même que c'est une activité qui est onéreuse, hein, la pratique hippique. Bon ben voilà, l'argent il ne tombe pas du ciel, même si lui a de très bons revenus, ils ont quand même un train de vie entre le château, les châtelains, les cinq enfants, enfin bref. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bling bling, au contraire, ils sont terriblement discrets, c'est vraiment l'aristocratie provinciale, la noblesse de province. En fait, c'est comme ça qu'il a grandi en politique. C'est ce que j'explique dans mon livre. C'est assez fascinant d'ailleurs, parce que la Sarthe est une terre où il y a beaucoup de petits châteaux et où il y a beaucoup de ce type de noblesse. Et lui, quelque part, est-ce que c'est d'une façon inconsciente, en devenant politique et en grandissant les marges de la politique, il a aussi grandi les marges d'une réussite personnelle, mais qui passait par cet adoubement nobiliaire.
C'est ça. Et ce livre auquel vous faites référence, c'est L'homme qui ne voulait pas être président aux éditions L'Artillée. Le 24 février, le parquet national financier ouvre une information judiciaire. Donc là, je vais vous faire la totale. Détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence, manquement aux obligations de déclaration de la Haute Autorité de transparence de la vie publique. Bon bref, ça fait beaucoup quand même pour un candidat à la présidentielle. Le 1er mars, François Fillon prend les devants et il annonce qu'il sera convoqué le 15 mars par les juges d'instruction en vue d'une probable inculpation. Écoutez-le.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. C'est pas de moi qu'il s'agit. De mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite.
Il se doute de ce qu'on va lui remettre dans les dents ou pas à ce moment-là, Véronique Jacquier ?
Non, puisque souvenez-vous, quand il passe à la télé et qu'on évoque une possible mise en examen, il dit « si, je dois être mise en examen ». Mais à la sortie du studio, Anne Méo, sa conseillère en communication, lui dit « mais pourquoi, François, vous avez évoqué cette possible mise en examen ?» Il lui dit « mais enfin Anne, parce que je ne serai jamais mise en examen ». Or là, comme je l'explique dans mon livre, sans doute, y avait-il quelques juges qui se disaient « eh bien écoute mon coco, tu es quand même un présidentiable, donc on va peut-être te manger à cette sauce-là ».
Eh bien on écoute justement ce qu'il déclarait sur le fameux plateau du JT TF1 le 26 janvier 2017, le lendemain de ces fameuses révélations par lesquelles tout a commencé.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'avais, pas seulement un soupçon, mais s'il y avait une évidence que j'avais transgressé la loi. Ça n'est pas le cas.
Fallait pas faire ça.
Fallait pas dire ça, voilà. Il fallait surtout pas dire ça.
Pourquoi cette posture, en fait, se retirer, ce serait avoué ? Quelque part dans son esprit à ce moment-là ?
Parce que, d'abord...
Parce qu'il le dit, je ne me retirerai pas.
Parce qu'il pense sincèrement qu'il ne peut pas être poursuivi, parce qu'il est imprésidentiable et qu'il raisonne là encore à l'ancienne, c'est-à-dire comme dans le bon vieux temps, quand la justice ne s'immisçait pas dans une campagne. Il n'a pas compris qu'on avait changé de monde. Il n'a pas compris qu'il avait des comptes à rendre. Alors, que ce soit bien ou pas bien, on peut en parler pendant des heures. Est-ce que c'était la place des juges de le mettre en examen ? Parce qu'à partir du moment où il est mis en examen, le candidat est mort. Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc c'est évident que la justice a changé la face de cette élection présidentielle. Lui pense, quand il parle, que c'est impossible.
Vous vous souvenez forcément le 5 mars ? Il pleuvait des cordes sur le Trocadéro où François Fillon donc, tient un meeting à Paris. Il s'obstine et il tente de réunir ses troupes. Il fait quoi ? Il se rassure, là, en fait, Véronique Jacquier ? Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde commençait à lâcher. Thierry Solaire, deux jours avant, avait quitté le navire.
C'est l'orgueilleux qui veut aller jusqu'au bout, qui dit « moi, j'ai gagné la primaire ». Je ne laisserai pas le bateau couler. Le bateau, c'est lui en l'occurrence. Hein, et quelque part, c'est un solitaire, François Fillon. Donc, je ne dirais pas qu'il se fout de la campagne, c'est pas vrai. Mais il pense que, envers et contre tout, il peut encore gagner. Il a cet orgueil-là. En revanche, attention. Lors du Trocadéro, il porte beau, il est dans sa superbe, il a quand même le carré des Fillonistes avec lui, il a quand même une bonne partie de la droite, et puis il a des soutiens.
Il y a quand même
quoi.
Eu des défections.
Voilà.
Les jours qui précèdent, il y a quand même eu des défections.
Il a des défections, mais ceux qui l'ont trahi à ce moment-là, ce sont déjà les Juppéistes qui sont partis, les Sarkozystes qui sont partis.
Ils ne sont pas les Fillonistes de...
Voilà, c'est pas les Fillonistes purs et durs, ils sont là, ils sont au Trocadéro derrière lui. Cela, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois dans la journée, il s'est dit j'y vais pas, je reste pas, etc. etc. Et en fait, ses proches, ses plus proches, lui ont dit non, allez, tu peux pas nous lâcher. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout parce que sinon, la droite, elle peut plus se regarder dans la glace.
Est-ce qu'en coulisses, justement, on réclame un peu Juppé et Baroin en sauveur?
Alors, certains ont tout fait, évidemment, pour que Juppé revienne de Bordeaux. Certains sont même allés le chercher. Ça n'a pas marché parce que Alain Juppé ne voulait pas être le candidat de remplacement. Donc là encore, on est dans des questions d'orgueil. Mais de toute façon, François Fillon a décidé qu'il lâcherait pas.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui revient ce soir jusqu'à 21h sur la débâcle de François Fillon pendant la présidentielle de 2017 qui aura vu Emmanuel Macron arriver à l'Élysée. Véronique Jacquier, vous êtes l'auteur du livre François Fillon, l'homme qui ne voulait pas être président aux éditions L'Artilleur. François Fillon, il poursuit sa campagne envers et contre tout et tous, malgré de nouvelles révélations. Alors, un prêt de 50 000 euros non déclaré de Marc Ladret de La Charrière, le président d'honneur de la revue des Deux Mondes. On apprend aussi que les enfants Fillon ont rétrocédé une partie de leur salaire à leurs parents, sans oublier l'affaire des costumes. Mmh. Alors, qui a à moitié fait ricaner, mais bon, voilà, costume de luxe offert par un ami, entre guillemets. De qui s'agit-il ?
Robert Bourgi.
Robert Bourgi. Qui est Robert Bourgi ? Un avocat ?
Un homme. Moi, quand j'ai mené mon enquête pour mon ouvrage, on m'a dit justement qu'il n'est pas recommandable parce que vous lui fermez la porte, il passe par la fenêtre et s'il faut passer par le troisième étage pour arriver à ses fins, voilà. C'était un cadeau empoisonné, mais alors là encore, il faut peut-être se montrer subtil. D'abord, François Fillon portait beau.
Bon, voilà.
Donc, classe. Il aime les belles choses, il aime les beaux costumes. Tout ça n'est pas très répréhensible, souvenez-vous. Jack Lang a aussi fait mannequin pour certaines marques de vêtements. Enfin, c'est pas le premier homme politique.
Oui.
On se souvient même
Être coquet.
Voilà, et tout à fait. Et même des premières dames ont porté des vêtements. Enfin, ça se fait. Voilà. Donc, lui ne voit pas le mal.
Alors, quand, effectivement, pour expliquer à nos auditeurs, donc Robert Bourgi, comme vous le dites si bien... a offert, donc, après sa victoire aux primaires, donc en 2016 à François Fillon, des costumes. Voilà. Mais on dit que c'est par vengeance. En fait, il aurait profité de la faiblesse de François Fillon qui aurait péché par coquetterie. En fait, il lui offre 3 costumes de luxe.
Non, alors,
non.
Moi je ne crois pas... c'est compliqué, parce qu'en fait...
Bon, ça a fait scandale,
non, mais le péché original de François Fillon dans cette affaire, c'est qu'il n'aurait jamais dû fréquenter cet homme alors qu'il est présidentiable et qu'il est en campagne présidentielle. On n'accepte pas de cadeaux quand on est un présidentiable.
Donc c'est une façon de le coincer.
Voilà. On n'accepte pas, on sait qu'on va devoir rendre des comptes sur tout, on doit être absolument intègre. Voilà. Et en plus, il avait été mis en garde sur la fréquentation d'un tel homme, on lui avait dit « fais attention ». Il n'est pas blanc-bleu, les rapports avec la France-Afrique, etc., etc. Et puis, ça fait partie, vous savez, des personnes, vous voulez leur fermer la porte, ils mettent le pied pour être toujours là. Bon, ça ne faisait pas très sérieux qu'il soit dans l'entourage de François Fillon. Et on lui avait dit au QG, on lui avait dit, on trouvait que c'était un petit peu too much.
Parce que Robert Bourgi a fini, effectivement, au milieu de ses affaires, par dire, eh oh, en fait, moi, j'ai filé des costumes de luxe à François Fillon. Donc,
mais
on se dit, après coup,
c'était une façon de le mettre dans le coin du ring. Donc, ce n'est pas quelqu'un, enfin, entre guillemets, c'est quelqu'un de dangereux quand on est un politique. C'est pas le genre de fréquentation qui est adéquate quand on rêve d'aller à l'Élysée. Mais François Fillon, comme me l'avait dit l'un des Fillonistes déçus, évidemment, parce que c'était le coup de grâce pour les Fillonistes, cette histoire de costume. C'était vraiment le coup de grâce. Là, il était indéfendable, François Fillon. Et un Fillonniste m'a dit, mais en fait, C'est un gourmand, c'est un gourmand de la vie, c'est un sybarite, c'est un hédoniste, il ne sait pas dire non. Et les costumes, c'est comme le chat à qui vous montrez la souris, et le chat, il n'est pas capable de dire non quand on lui dit qu'il faut croquer la souris. Ben voilà, ben François Fillon, c'était
Mais
ça.
Il
n'aurait
pas dû la croquer, ce
il
n'aurait
pas
hein.
dû la croquer. Non. En revanche, les explications de Robert Bourgi sont, d'après moi, complètement vaseuses, parce qu'il se donne un rôle qu'il n'a absolument pas tenu auprès de François Fillon.
D'accord. 23 avril 2017, après toutes ces affaires, ce qui semblait inéluctable se produit. François Fillon est éliminé donc au premier tour de l'élection présidentielle avec 20% des voix. Derrière Marine Le Pen, 21,3%. Et Emmanuel Macron, 24%. Est-ce que sans cette affaire, Fillon aurait passé le premier tour? Et est-ce que ça a été aussi, selon vous, une aubaine pour Macron?
Alors oui, sans cette affaire, il aurait évidemment passé le premier tour, puisqu'il a fait 20%, et Jacques Chirac, par exemple, a passé le premier tour avec chaque fois 18%. Donc malgré toutes ces affaires, honorable. il n'a pas été mal élu, si j'ose dire, puisque en fait la campagne a été complètement polluée par toutes les affaires. Il n'y a pas eu de campagne, la droite n'a pas pu faire campagne, il n'a pas pu détailler l'ombre d'un programme, même si finalement, avec la primaire, on savait de toute façon, quand on votait pour François Fillon, pour qui on votait et pourquoi on votait. Donc oui, ça a évidemment donné un sacré coup de pouce à Emmanuel Macron, mais attention, l'étoile d'Emmanuel Macron se levait déjà juste avant Noël 2016, c'est-à-dire quand François Fillon décide de partir au ski, Emmanuel Macron commence déjà à monter dans les sondages. Non mais il ne sait pas, il n'a pas vu arriver le danger. Ensuite, force est de reconnaître qu'Emmanuel Macron a été très bon en campagne. Personne ne se souvient finalement du programme d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, mais tout le monde se souvient qu'il était très bon, puis il avait la prime à la nouveauté. Alors évidemment, il a marqué des points. Mais oui, François Fillon, franchement, aurait sans doute été élu président de la République s'il n'y avait pas eu cette campagne désastreuse et s'il n'avait pas eu ces casseroles aux fesses, évidemment.
Après cet échec, en tout cas, parce que ça reste un échec, alors cuisant pour son image, on l'a bien compris, François Fillon avait du pain sur la planche, préparait son procès du 24 février au 11 mars 2020. François et Pénélope Fillon sont jugés devant la 32e chambre correctionnelle de Paris. On y revient dans un instant.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, Jour J qui se poursuit jusqu'à 21h pour parler de la chute. On parlait il y a un instant hors antenne d'une forme de naufrage, Véronique Jacquier, de François Fillon. Le 29 juin 2020, François Fillon est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Son épouse a 3 ans de prison avec sursis. Ils ont naturellement fait appel. On en est aujourd'hui de la procédure. Ça va être jugé là dans les jours qui viennent. Hein.
Alors, prochain procès en appel le 15 novembre.
Voilà, c'est ça.
Et il risque gros. Il risque gros quand même, puisqu'on le rappelle.
Il peut aller en prison
Bien sûr, puisqu'en première instance, François Fillon a écopé de 5 ans, dont deux enfermes, 10 ans, je vais y arriver, d'inéligibilité et d'une amende de 375 000 euros. C'est très sévère aussi pour Pénélope Fillon. 3 ans avec sursis, 375 000 euros, 2 ans d'inéligibilité.
Ouais, c'est super dur. Enfin, en tout cas, c'est une sentence sévère.
Extrêmement sévère.
Alors, mais oui, parce que je sais effectivement que vous trouvez que ça va loin.
Ah, je trouve que ça va. Non, alors, oui, je trouve que ça va loin. C'est-à-dire que oui, il est effectivement condamnable et ce qu'il a fait n'est pas pardonnable.
D'accord.
Maintenant, 2 ans ferme, oui, ça va quand même très très loin. C'est quand même une première. Mais enfin, depuis, on a eu Nicolas Sarkozy. Hein.
Alors, j'allais vous dire, ça s'est durci de toute façon ces derniers temps.
En
termes de justice.
Non, mais c'est-à-dire
est-ce que ça a marqué un changement
justement. Les juges envoient des signaux, c'est-à-dire maintenant, vous êtes des hommes comme les autres et nous aussi.
Est-ce que cette affaire a marqué un changement justement dans le traitement judiciaire des politiques, selon vous?
Ah, complètement.
L'affaire Fillon.
Ah, ben bien entendu.
D'accord.
Bien entendu. Même si, attention, j'estime que, oui, les faits sont répréhensibles.
Oui, ça, on l'a bien compris. Quel est l'avis de François Fillon aujourd'hui? Il est toujours châtelain dans son manoir, dans son château de Sablé-sur-Sarthe.
Alors oui, il a toujours, bien entendu, son manoir de Sablé-sur-Sarthe. Il se passionne toujours pour la course automobile, vous savez. Il fait le Tour de France, il fait des courses classiques au volant de vieilles voitures. Il est allé au Castellet, au Mans, sur le circuit de Nogaro, dans le Gers. Et puis, il est très actif quant à la situation des chrétiens d'Orient. Il est le président d'une association qui s'appelle Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient. Et lors de l'Assemblée générale, c'était le 29 septembre dernier, il a quand même évoqué le procès en disant quand même que pour lui, c'était une épreuve et qu'il espérait évidemment s'en sortir et qu'il espérait ensuite pouvoir œuvrer pour les chrétiens d'Orient. Parce que, souvenez-vous, il avait quand même dressé un constat assez lucide sur la situation au Proche-Orient, sur la montée du totalitarisme islamique. Et c'est quelqu'un qui s'investit aussi beaucoup pour le Liban. Donc il est très inquiet pour la situation au Liban. Force est de reconnaître à François Fillon qu'il a vraiment des compétences en matière de politique étrangère et pour gérer justement ces affaires du monde. Il est aussi rentré dans le conseil d'administration d'un groupe pétrolier.
Voilà, c'est ça, d'un pétrolier russe.
Tout à fait.
Voilà, on a appris sa candidature, donc ça y est, il est rentré dans le conseil d'administration du groupe pétrolier.
Et il a même participé pour la première fois à ce conseil d'administration début octobre. Alors, il y participe en tant que président de sa SARL, qui s'appelle Apteras SARL. C'est une société qu'il a fondée en 2017, après le naufrage de la présidentielle. Et ça lui permet de travailler avec des entreprises françaises qui sont installées en Russie. Donc, en fait,
avec des emplois solides.
Ben, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il monnaie son carnet d'adresses et il donne des conseils en géostratégie. Et pour ça, je pense que franchement, il est très bon.
En termes de politique, donc c'est fini, c'est mort,
c'est
terminé.
C'est fini.
Est-ce qu'il a toujours des contacts quand même avec ses anciens fidèles ?
Non, pas du tout.
Même pas Jérôme Chartier
Peut-être encore un petit peu Bruno Retailleau, mais très honnêtement, François Fillon est un solitaire. C'est compliqué quand même de garder le lien avec un homme qui a été aussi secret, qui a aussi peu partagé. Donc, même pour les fillonistes, c'est dur de garder le contact. C'est pas qu'il ne respecte pas l'homme politique qu'il a été, mais c'est dur de retrouver l'être humain en toute amitié. C'est compliqué quand même. Et puis,
donc ça vient pas tant que de son entourage, ça vient de lui aussi.
Voilà,
ça lui manque pas.
Voilà, tout à fait, ça vient de lui. Alors après avant le procès, il avait envoyé des textos à certains fillonistes pour leur dire coucou, on pourrait déjeuner, etc. Et puis en fait après, il donne pas forcément suite. C'était peut-être lui pour se rassurer, pour
d'accord,
se dire
il a tourné une page.
Voilà, est-ce que j'ai encore des troupes ?
Et on va rentrer dans une campagne présidentielle. Est-ce qu'on peut s'attendre à autant de rebondissements en 2022 qu'en 2017 ? En même temps, à cette époque-là de l'année, on pouvait s'attendre à tout.
Oui, mais c'est différent parce qu'on avait un candidat qui était ultra secret, ultra dissimulé. Alors on se rend compte maintenant qu'on sait pourquoi il était aussi dissimulé, François Fillon. C'est parce que finalement, il avait beaucoup de choses à cacher dans sa vie privée. Moi, c'est la thèse de mon livre. Comme ce n'était pas un homme qui était fait pour la politique, mais qui s'est servi de la politique pour bien vivre, pour avoir la vie d'hédoniste dont il rêvait, il a très vite coupé avec la politique parce qu'il n'avait pas de... Il y avait pas de sentimentalité avec la politique. C'était pas une histoire d'amour. Et d'ailleurs, on peut lui reprocher de ne pas avoir su créer d'histoire d'amour avec les Français. C'est ce qui fait finalement qu'il a été assez rapidement lâché et par ses troupes. Alors pas forcément par tous les militants, parce que finalement, il y a encore une nostalgie un peu François Fillon. Il y a beaucoup de Français, il y a le peuple de droite qui pense qu'on lui a volé son élection. Maintenant, 2022. Bah, j'espère que quand même tous les candidats qui se présentent n'ont rien à cacher et sont prévenus, effectivement.
Voilà, on peut dire effectivement que c'est une affaire qui aura prévenu tout le monde. Merci en tout cas Véronique Jacquier d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle donc votre livre François Fillon, l'homme qui ne voulait pas être président chez l'artilleur. C'est une façon effectivement de rentrer dans la personnalité de François Fillon au-delà de l'affaire. Merci à vous.
Merci.